pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils avec Hervé Marquez ce matin en plateau, dirigeant de HM Patrimoine Conseil. Bonjour Hervé.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin. Alors on va s'adresser à un public très large. On va donner un petit peu les clés pour bien investir, les erreurs à pas faire selon vous, et puis surtout une remontée de terrain de votre cabinet de conseil, donc HM Patrimoine Conseil, afin d'un petit peu s'y retrouver. Aujourd'hui, vous dites attention aux mauvaises habitudes. C'est vrai que parfois on a envie d'investir parce que on a un copain, un cousin, quelqu'un de la famille qui a dit « Ah tiens, t'as vu ceci, cela », et vous dites « Bon, attention, c'est bien, mais recoupez vos sources, faites vos recherches ».
C'est vrai, il y a plusieurs, alors je vais rebondir sur cet exemple. Le bon conseil qu'on entend lors d'une réunion de famille ou avec un ami dont on admire la réussite, par exemple, et on a envie de dupliquer sa recette. Et puis on s'approprie un investissement qui ne nous correspond pas en termes de risque. Par exemple, ce fameux ami ou copain est très résistant au stress alors qu'on ne l'est pas. Et on se retrouve avec un investissement qu'on ne va pas réussir émotionnellement à gérer. Et donc, finalement, la démarche va être contre-productive. À la première correction de marché, on va vendre. Et finalement, ça rentre parmi les trois profils que je juge problématiques, celui de copier un investissement ou un investisseur qui ne correspond pas au profil.
Vraiment. Parce que ça dépend de son âge, de son horizon d'investissement. Est-ce qu'on a un projet, je ne sais pas, de résidence principale ou pas? Enfin, en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte.
Exactement. Lors de toute entrée en relation, on fait ce qu'on appelle un questionnaire profil investisseur. Quel type d'investisseur êtes-vous? La tolérance au risque, l'horizon d'investissement, notamment la situation personnelle et familiale. Tout ça rentre en compte. Et picorer un peu les informations au compte-gouttes telles que suggérées par les moteurs de recherche, c'est un des premiers écueils dans lesquels il faut pas tomber.
Autre exemple à éviter, ou en tout cas à connaître.
Alors ça, c'est un sujet dont vous faites partie, BFM Business, c'est la surinformation, l'infobésité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations à la télé, sur les réseaux sociaux, et on a tellement d'informations, les investisseurs en devenir ont tellement d'informations, ils finissent par être un peu tétanisés, beaucoup d'informations contradictoires leur parviennent aux oreilles. Est-ce que je dois investir en Chine? D'un côté, j'entends oui parce que les US commencent à être un peu incertains. Et de l'autre, la Chine, économie administrée par le parti communiste qui peut mettre des dirigeants en prison du jour au lendemain. Donc non, rester à l'écart de la Chine. Qui croire? On ne sait plus. Et résultat, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Et résultat, on se retrouve avec, entre les comptes courants, les livrets et les fonds euros, avec 3000 milliards d'euros qui dorment ou du moins qui ne sont pas réellement au travail.
Dans tous les cas, la clé, c'est la diversification. Quand on se lance dans un placement, on ne met pas tout sur le même actif, sur le même placement, sur la même enveloppe. Et c'est le cas, vous parlez de zones géographiques, c'est la même chose.
Voilà, on diversifie les zones géographiques, les secteurs d'activité, les devises également. Et Étienne, ce conseil s'applique à la fois aux investisseurs, mais à la fois aux conseillers en gestion de patrimoine. Parce que parfois, on a des investissements un peu doudous qu'on aime bien conseiller. Et voilà, il ne faut pas que le biais du conseiller devienne le biais de l'investisseur final. Il faut vraiment aussi s'appliquer ça à soi-même.
Et en même temps, pas trop se diversifier non plus. C'est vrai que c'est un juste milieu à trouver. Trop se diversifier, parfois, ça amène à neutraliser la performance.
Oui, voilà, pareil, si vous avez 1000, 2000 euros à investir, n'allez pas saupoudrer dans toutes les enveloppes, ça ne servira à rien. Autant faire ça dans une enveloppe qu'on peut tracer, qu'on peut s'approprier. Oui, effectivement, c'est un point que...
Alors les clubs d'île immobilier, les clubs d'investisseurs, on voit plus que ça aujourd'hui dans les stories sur les réseaux sociaux,
voilà.
Avec des réunions, des webconférences de partout. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui, sans faire des généralités?
Voilà, pareil, alors il y a des termes que vous avez évoqués, clubs d'île immobilier et autres, qui sonnent bien à l'oreille, holding, c'est un peu la nouvelle Rolex, donc il faut en avoir une pour se donner un peu de consistance d'un point de vue social, mais est-ce que c'est réellement approprié? Pas sûr. Un club d'île immobilier, il y a eu beaucoup de clients que je suis ou que j'espère suivre qui ont investi dans ces supports monoactifs, là, parfois. Et quand on se concentre sur un seul actif, on ne répartit pas le risque. Et si, je ne sais pas, s'il y a un arrêté de péril sur un immeuble dans le carré d'or parisien et que le projet ne voit pas le jour, les 100 000 euros que vous avez investis peuvent devenir zéro. Donc voilà, attention à ça aussi, à ces buzzwords, à ces termes à la mode.
Voilà. Et comment on repère un bon club? C'est pas évident aujourd'hui, sachant que vous avez beaucoup de clubs qui se sont constitués ces derniers mois ou ces dernières années, avec assez peu de track record, des communications qui sont très bien faites. Comment on arrive à tirer le bon grain?
C'est vrai, alors ça c'est chacun après sa tolérance au risque. C'est un peu comme les SCPI, essayer de privilégier celles qui ont quand même un track record solide. Mmh. Et si vous voulez, pour une infime partie, céder à, pas un effet de mode, mais à un acteur plus récent, allez-y, mais n'allez pas mettre tout votre patrimoine sur un acteur dont la communication est bien faite, qui a des rendements intéressants, mais qui a un track record un peu incertain. Pour moi, c'est trop risqué.
Autre exemple ou de cas que vous pouvez illustrer par rapport à vos retours de terrain ?
Les cryptos. Les cryptos, bah, par exemple, qui sait expliquer pourquoi les cryptos sont passés de 66 à 76 000 dollars ce dernier mois ? Peu de personnes, tout le monde n'est pas hasheur ou un expert en crypto, par exemple, ou n'écoute pas BFM. Donc, c'est quand même très dur de. Et un Français sur trois envisage d'acquérir des cryptos en 2025. Donc, je ne connais pas la SAT pour 2026, mais un tiers des Français envisageraient d'investir dans un actif et la plupart ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de cet actif. Donc, avant de s'intéresser au haut de la pyramide patrimoniale, les 5-10% du patrimoine qu'on pourrait investir dans des actifs dits exotiques, concentrez-vous sur la consolidation de la base, épargne de précaution, fonds euros, livrets, PEA, compte titres, et après, voilà, le haut de la pyramide, on laisse pour plus tard.
Ça, c'est la fameuse pyramide. Hein. Il faut imaginer en fait une pyramide avec plusieurs blocs que vous empilez. Exactement. Alors, on commence par quoi ?
On commence par l'épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses, 3 à 6 mois de salaire, c'est selon. Si vous êtes indépendant ou chef d'entreprise, peut-être pousser vers les 12 mois d'épargne de précaution. Donc, cette épargne de précaution est logée dans des livrets, voilà, qui rapportent certes peu, mais au moins c'est sécurisé. Et c'est de l'argent très liquide. Ça, c'est la base de la pyramide. Ensuite, deuxième étage, le fonds euro de l'assurance vie, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose de légèrement moins liquide, qui rapportait en moyenne en 2025 du 2,6%. Ça reste sécure, c'est très liquide. Et ça travaille un petit peu.
Parfois plus. Hein. En ce moment, on voit pas mal de bonus sur des fonds d'assurance, etc. On peut capter du rendement sur cette classe.
On peut capter du rendement, effectivement. Mais ce n'est pas la vertu principale. Par des opérations promotionnelles ponctuelles, on peut. Voilà. Et après, le troisième étage de la fusée, vous le trouvez, bon, selon les pyramides, de manière concomitante, l'immobilier et les actions. Voilà. Et donc ça, c'est pour dès qu'on a plus de 5 ans, 5 à 8 ans ou plus d'horizon d'investissement, commencer à s'intéresser à ces classes d'actifs, idéalement en se faisant accompagner d'un conseil. Voilà, je rappelle une stat, hein. Sur les 3 dernières années, 93% des personnes qui ont reçu un conseil en investissement en ont été satisfaites. Pourquoi s'en priver ? Voilà.
Un conseil, donc ça peut être un conseil un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine,
exactement.
De son réseau bancaire aussi, parfois, comment on peut se faire bien accompagner ? Parce que c'est vrai que parfois, en fonction de sa situation ou de son montant, on se dit, je ne vais pas aller voir un conseiller pour une somme que l'on peut trouver modique ou restreinte, où on se dit, ça, ce n'est pas adapté à mon besoin. Comment on pousse la porte ? Comment on choisit aujourd'hui son conseil ?
Alors Étienne, je ne vais dénigrer personne. Oui. Challenger les acteurs. Allez voir votre banque, allez voir un CGP, par exemple. Et comparer, il y a aussi une approche humaine qui est importante. Après, il y a le danger de s'amouracher je parle financièrement parlant, d'un conseiller en banque qui peut-être dans 2-3 ans ne sera plus là. Généralement, le CGP vous suit tout au long de votre vie.
Voilà, des clés d'investissement pour bien épargner. En tout cas, les conseils que vous pouvez donner grâce à vos retours de terrain. Hervé Marquet, je rappelle que vous êtes dirigeant de HM Patrimoine Conseil.